Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, au 18e jour de contestation, les reculs du gouvernement. Un moratoire, une pause sur la hausse de la taxe carburant. Au placard, le nouveau contrôle technique automobile. Pas de hausse des prix de l'électricité et du gaz cet hiver. Voilà ce que le Premier ministre Édouard Philippe vient tout juste d'annoncer. Il faudrait être sourd, dit-il, pour ne pas entendre la colère de la France qui travaille dur et n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ces mots, ces mesures sont-ils de nature à apaiser la colère? Les détails, les réactions dans un instant, mais aussi les manifestations qui prennent de l'ampleur dans les lycées, les syndicats de policiers qui demandent un changement de méthode. Nos reporters et spécialistes sont sur le pont. Gilets jaunes, 18e jour, ce sera une très longue page de ce journal. Dans cette édition encore, le boss de la mafia sicilienne arrêté, l'art des fous, exposition à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, ce sera la chronique santé. Et puis la météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Une journée de répit, un peu de printemps dans le sud et le sud-est.
Oui, avec un très bon ensoleillement du Piémont pyrénéen au Languedoc-Roussillon et de la région PACA à la Corse. Les températures seront largement supérieures aux moyennes de saison. Prévoyez 18 à 20 degrés. Partout ailleurs, le ciel sera encombré de nombreux nuages, excepté dans le nord où vous profiterez d'assez belles éclaircies. Et puis les températures sont en sensible baisse. Comptez 9 à Lille, 12 à Paris, 13 à Limoges et 14 à La Rochelle.
Merci Jean-Pierre Hameau. Plus de détails tout à l'heure. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Un fond bleu, le drapeau de la France et celui de l'Europe, un cadre très sobre pour l'intervention du Premier ministre il y a une demi-heure, 10 minutes de discours à la France en colère. Une colère qui vient de loin, dit Édouard Philippe.
C'est la colère de la France qui travaille et qui travaille dur et qui peine à joindre les deux bouts. La colère des Français qui sont le dos au mur, celles aussi des mères de famille qui élèvent seules leurs enfants. Cette colère prend sa source dans une profonde injustice, celle de ne pas pouvoir vivre dignement du fruit de son travail, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants alors que les journées de travail commencent tôt et finissent tard, surtout si l'on y ajoute le temps de transport. Notre objectif, c'est que le travail paye, et nous avons bien entendu les Français qui nous demandent d'accélérer. Fixer le cap et le tenir est une nécessité pour gouverner la France. Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation.
Et le Premier ministre en tire les conséquences, une série d'annonces en ajoutant, il ajoute cela, Édouard Philippe, qu'il y a eu 4 morts depuis le début de ce mouvement de contestation, des centaines de blessés, que les violences doivent cesser. Alors, dans un souci d'apaisement, une série d'annonces. Bonjour Hélène Philippe.
Bonjour.
On les détaille avec vous Hélène. D'abord des mesures fiscales, ce qui devait entrer en vigueur au 1er janvier est reporté.
Oui, concernant les carburants, la hausse de la taxe carbone, la convergence de la fiscalité diesel-essence et la hausse du gazole pour les professionnels, ce fameux GNR oui. Qui est utilisé dans les engins de chantier notamment. Toutes ces hausses-là qui étaient prévues au 1er janvier, eh bien elles sont suspendues et pour 6 mois, c'était la revendication première des gilets jaunes. C'était la première, mais aujourd'hui loin d'être la seule, donc c'est une première étape, un préalable.
Et le gazole non routier, c'est important, c'est un des arguments avancés par ceux qui bloquent les dépôts pétroliers et les stations-service en ce moment. Petit 2, Hélène Philly, autre annonce donc d'Edouard Philippe il y a une demi-heure, elle parlera à tous les automobilistes.
Oui, parce que le nouveau contrôle technique est suspendu pour 6 mois lui aussi. Alors ce nouveau contrôle technique, c'est l'issue d'une directive européenne qui date de 2014 et qui avait dans l'idée d'éradiquer les véhicules délabrés et en mauvais état. Au 1er janvier dernier déjà, on était passé de 124 points de contrôle à plus de 400, donc il avait déjà été très durci et il devait l'être encore plus en janvier prochain. On devait mettre en place une mesure des fumées porteuses de particules et elle allait de fait déclasser des milliers de véhicules. Un alourdissement qui était dénoncé par les Gilets jaunes qui réclamaient l'annulation de cette révision. Elle est donc suspendue pour 6 mois.
Troisième point, le gaz, l'électricité, pas de hausse dans les semaines à venir.
Pas de hausse jusqu'au 15 mars, en fait, date de la fin de la concertation.
Pas de hausse cet hiver.
Voilà, pas de hausse cet hiver, alors que le comité de liaison des entreprises de consommatrices d'électricité s'attendait à une hausse pour l'électricité entre 8 et 10% en février prochain.
Oui. Alors, on notera ce qu'il n'y a pas aussi, Hélène Philly, on ne revient pas sur la réforme de l'impôt sur la fortune, pas de coup de pouce au SMIC, et puis la logique économique du gouvernement, au fond, reste la même. Et il faudra baisser les impôts, dit le Premier ministre, mais si on baisse la fiscalité, ben, il faudra que les dépenses baissent aussi.
Ah oui, clairement, Édouard Philippe n'entend pas déroger à la règle des 3% de déficit de Bruxelles. Évidemment, il faut plus de transparence sur les impôts, dit-il. Notre système fiscal est complexe. Donc, le Premier ministre estime qu'il faut discuter des modifications que nous devons lui apporter. Pas de hausse d'impôts, pas de nouvelles taxes. Il a compris que c'était le message des Gilets jaunes. Mais on ne pourra pas le faire sans baisser la dépense publique. Il l'a vraiment réaffirmé. Et ça va être compliqué. L'équation va être complexe parce qu'il va falloir évaluer le coût de toutes les mesures qui sont annoncées ce midi et que les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Le gouvernement a déjà anticipé un déficit à 2,8% pour l'année 2019. Donc on est tout près des 3%. Donc on se demande un peu comment on va faire aujourd'hui financièrement pour financer ces mesures qui sont annoncées.
Et pas de coup de pouce au SMIC. Hein, le mécanisme classique et la hausse de la prime d'activité aboutissent à une hausse de 3% net, dit Édouard Philippe. Le débat aura bien lieu en région du 15 décembre, donc il commence quasiment tout de suite jusqu'au 1er mars. Des solutions différentes doivent être trouvées dans les grandes villes et les campagnes. Solutions notamment pour mieux aider les personnes qui travaillent loin de leur domicile et ouvrir un large débat sur les impôts et les finances publiques. Nous allons à l'Assemblée nationale. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Avant de parler à la radio et la télévision, Édouard Philippe s'est exprimé devant le groupe majoritaire, le groupe de La République En Marche. Quelle analyse politique peut-on faire des mots utilisés ce matin et des reculs ?
Oui, c'est très clairement un recul du pouvoir qui jusque-là jouait le côté droit dans ses bottes au nom de l'urgence écologique. Alors ici, on nous dit qu'à défaut d'un vrai changement de cap, il y a vraiment un changement de méthode. Cet élément de langage est repris d'ailleurs comme un mantra par tous les députés qui viennent nous parler. Et ce mot, c'est l'apaisement. Alors on sait que nombre de députés parmi ce qu'on appelle un peu par facilité l'aile sociale de La République En Marche bataillent depuis des semaines pour faire entendre qu'il faut faire des gestes d'apaisement. Ils ont été entendus, ils semblaient un peu soulagés, mais toutefois pas complètement rassurés. Mathieu Orphelin, député très proche de Nicolas Hulot, nous disait qu'il fallait espérer que ça finisse par faire tomber la colère. Marie Guévenoux, ligne plus droite, députée de l'Essonne, en convient. On a mis longtemps à comprendre le problème, mais on n'aurait pas pu aller plus vite. On nous parle de fracture sociale depuis 1995, on n'est donc pas sourd, mais les revendications étaient tellement diffuses qu'il a vraiment fallu les identifier. Alors l'identification des problèmes, c'est la ruralité, les périphéries qui souffrent. Gilles Legendre, le patron du groupe, a donc confié, ça a été annoncé aujourd'hui, à cette députée, Marie Guévenoux, ainsi qu'à Éric Botorel, député des Côtes d'Armor, l'organisation de cette fameuse concertation. C'est le deuxième temps annoncé par Édouard Philippe, ce grand débat auprès des territoires. Donc, une suspension, un apaisement, un grand débat. Mais effectivement, quand le Premier ministre ajoute qu'il va falloir, si on a moins de recettes, faire aussi des économies, c'est sans doute un peu sous-dimensionné face à la taille de la colère qui s'est levée.
Merci Laurence Perron, en direct de l'Assemblée nationale. Débat donc demain à l'Assemblée avec un vote qui n'engagera pas l'avenir du gouvernement. Alors les réactions politiques, on va les entendre dans un instant. D'abord, les réactions des Gilets jaunes. Les toutes premières, une des figures du mouvement, Jacqueline Moureau.
Sur la forme, on a un petit peu l'impression qu'il y a enfin une once de compréhension. Pas presque de mea culpa, mais pas loin. Il faut aussi faire preuve d'un peu de sagesse. Il faut quand même saluer le fait qu'aujourd'hui, ils prennent la parole pour dire on va renoncer à des choses. C'est quand même pas mal. Mais bon, ils ne parlent pas d'une augmentation du SMIC, quoi, sur le pouvoir d'achat. Évidemment, ça va jouer le fait que ce sont des annulations ou des gels pendant 6 mois. Donc maintenant, je pense qu'il y a 6 mois pour travailler, pour encore peser sur les concertations. Il faut se structurer, il faut envoyer des représentants pour porter la parole de toutes ces personnes. On ne peut pas se faire entendre dans la cacophonie. Moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est quand même un grand pas. Il faut en tenir compte parce qu'il n'est pas question encore qu'un autre samedi noir se reproduise. Moi, je n'appelle pas du tout à ces manifestations sur Paris. Je ne comprends pas qu'on puisse appeler à les saccager. Maintenant, vous savez, la façon dont le mouvement est structuré individuellement sur chaque rond-point, les gens vont prendre la décision de continuer ou pas individuellement.
Jacqueline Moreau avec Béatrice Duguay, parole de Gilets jaunes qui manifestait ce matin encore. C'est au micro de Thibault Lefèvre en Ardèche, au Pouzin, où le samedi dernier, souvenez-vous, a été brûlant. Voici sur un rond-point les paroles de Jacques qui est retraité, de Ludo qui est ouvrier maçon et d'Élodie qui est coiffeuse et maman solo.
Les moratoires, c'est du blablabla, c'est pas des solutions qu'attendent les gens. Les gens, ils ont faim, c'est pas en discutant, ils ont besoin de mesures immédiates, les gens. Quand on veut enterrer un problème, on fait des moratoires, des réunions. Ceux qui vont discuter, c'est ceux qui nous ont foutus dans la merde, alors bon. C'est un triste pays, hein.
C'est un geste pour endormir le peuple, c'est tout. Voilà, c'est... Il calme les ardeurs et après, hop, il va recommencer son bordel. Il a toujours été comme ça, Macron. Qu'il enlève toutes les taxes et qu'il remette les impôts sur la fortune à l'ISF. Et moi, je tiendrai jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il lâche lui.
Ils nous entubent tout le temps. Parler, ça a eu sa faire. Après, respecter leurs paroles, c'est pas la même. On restera là tant qu'il n'y aura pas d'autres mesures de prise. Ça ne nous fera pas partir.
Et c'est l'occasion de préciser que dans son discours tout à l'heure, Édouard Philippe a demandé à ce que, s'il y a une manifestation à Paris samedi, elle soit déclarée. Alors ce qu'on constate en entendant ces gilets jaunes du Pouzin en Ardèche, Thibault Lefebvre, vous êtes avec eux, c'est que c'est pas gagné, hein.
Oui, c'est pas gagné, surtout que leurs demandes, leurs revendications que j'ai sous les yeux sont loin d'être respectées. Ils n'ont pas été entendus, c'est ce qu'ils considèrent. Et c'est un inventaire à la Prévert. Elle concerne dans l'ordre la baisse de la CSG, de toute une série de taxes ou de frais sur les timbres, les frais bancaires, les assurances, les transports publics, les péages, le tabac, le rétablissement de l'ISF aussi. Pour résumer, tout ce qui mine le pouvoir d'achat des gilets jaunes et tout ce qui est vécu comme une injustice. Pour être tout à fait franc, les annonces d'Édouard Philippe n'ont pas été suivies. Ce n'est plus de la défiance vis-à-vis du gouvernement, mais du mépris. Personne ici n'écoute la parole publique. Personne non plus ne croit aux reportages diffusés dans les médias traditionnels. Pour des gilets jaunes du Pouzin comme Élodie ou Ludo que vous avez entendu, la vérité, comme ils disent, est sur Facebook. Et la vérité de la matinée est tout simplement hallucinante. Emmanuel Macron serait en passe de vendre, je cite, la France à l'ONU par le biais du pacte souverain pour ensuite démissionner et faire croire aux gilets jaunes qu'ils ont gagné. Un exemple de discours irrationnel pour que vous puissiez mesurer, Bruno, le gouffre qui sépare aujourd'hui les décisions du gouvernement, des attentes des manifestants. Les gilets jaunes du Pouzin veulent la démission d'Emmanuel Macron et ils sont très soutenus. Depuis ce matin, c'est un concert de klaxons autour du rond-point, des automobilistes et des routiers solidaires qui affichent ostensiblement leurs gilets jaunes sur leur tableau de bord.
Merci Thibault Lefebvre en direct du Pouzin en Ardèche. On disait tout à l'heure que la logique économique ne change pas beaucoup tout de suite. Cette précision de Bruno Le Maire, le ministre des Finances, la France s'en tient à ses engagements budgétaires et financiers envers l'Union européenne. Les réactions politiques à présent, nous serons avec Sébastien Chenu dans une petite seconde. D'abord Éric Coquerel pour la France Insoumise.
Bah c'est trop tard et pas assez. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, j'entends des gilets jaunes qui réagissent déjà. C'est un premier pas, c'est-à-dire que ça a été dû à la mobilisation. Mais quelque part, il aurait fallu le faire il y a des semaines. Maintenant, les gens ont compris qu'ils ne pouvaient pas avoir confiance dans ce gouvernement. Donc s'ils pensent qu'avec une simple suspension, ce mouvement va s'arrêter alors que les gens sont mobilisés depuis des jours, qu'ils commencent à non seulement demander l'annulation de la hausse du carbone, mais par exemple ceci, le rétablissement de l'ISF qui pointe les injustices fiscales et les privilèges, je crois qu'il ne s'en sortira pas avec un tripatouillage, quoi. Ils sont en train d'improviser. Ce gouvernement essaye de gagner du temps, essaye de diviser le mouvement, mais je ne crois pas qu'il va y arriver.
Voilà pour la France Insoumise. Chez les Républicains, Aurélien Pradier, j'ai trouvé un Premier ministre sonné. Tout ça pour ça, le gouvernement ne comprend pas ce qui se passe. Il est confronté à une réalité extrêmement dure et il essaie d'atterrir. Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour.
Porte-parole du Rassemblement National. Alors résumons hein, les mesures annoncées par Édouard Philippe tout à l'heure. Moratoire sur la hausse de la taxe carburant, au placard le nouveau contrôle technique automobile, pause sur la convergence diesel-essence, pas de hausse des prix de l'électricité et du gaz cet hiver. Qu'en dites-vous ?
Eh bien, je dis que c'est du bricolage, que personne n'est dupe et qu'on a compris que ce gouvernement essayait de tenir jusqu'aux élections européennes parce qu'en réalité, il n'y avait aucune solution sur le fond et que tout ça va revenir, évidemment, dans 6 mois. Un moratoire, ce n'est pas une annulation de taxes et que tout ça va ressurgir encore plus fortement. Ce gouvernement n'a aucune solution sur le fond. Il ne répond pas aux problématiques du pouvoir d'achat. Nous avions demandé une prime pour l'emploi de 200 euros pour les petits salaires et les petites retraites. Il ne répond pas sur la crise de représentativité. Il ne répond pas sur l'aménagement du territoire, sur tout ce qui fait en réalité le conflit et les demandes des gilets jaunes. Il répond simplement qu'il souhaite gagner un peu de temps, encore quelques instants, monsieur le bourreau.
Monsieur Chenu,
écoutez, les Français, oui.
Monsieur Chenu, est-ce que vous et la France Insoumise et l'opposition ne jouez pas au jeu du toujours plus en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut une forme d'union nationale après les émeutes auxquelles on a assisté le week-end dernier?
Non, ce que nous souhaitons, c'est trouver des solutions pérennes pour le pays, pas du bricolage, des solutions à long terme. Les Français qui ont défilé avec des gilets jaunes le disent, ils ont du mal à boucler les fins de mois, ils n'attendent pas une solution pour 6 mois, ils attendent une solution pour leur vie, ils attendent des solutions pour leur pouvoir d'achat, ils attendent des solutions pour être transportés, soignés là où ils vivent, ils attendent des solutions pour être représentés à la hauteur de ce qu'ils pensent, c'est-à-dire par une Assemblée nationale qui vote l'impôt et qui soit représentative.
Ça signifie Christophe Chenu, que s'il y a de... Sébastien Chenu, que s'il y a de nouvelles manifestations samedi, vous en serez?
Nous avons toujours été aux côtés des Gilets jaunes depuis le premier jour. Nous serons demain aux côtés des Gilets jaunes à partir du moment où ils n'ont pas, où ce gouvernement n'a pas répondu à l'attente des Français et des Françaises. Et puis nous allons faire assaut de propositions sur les adios bancaires. Il y a des choses à proposer. L'idée, c'est pas de trouver d'être toujours dans le plus. L'idée, c'est de trouver des solutions pérennes, des solutions pour les Français, pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail et pour qu'ils puissent profiter du fruit de leur travail. Or, le gouvernement, nous, on l'a vu, cherche à colmater les brèches. C'est un peu une fuite en avant, une sorte d'au secours. Ils n'ont rien compris puisqu'ils disent qu'ils maintiendront les mêmes trajectoires. Donc ils n'ont rien compris, ils colmatent les brèches.
Merci Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, d'avoir répondu à nos questions en direct sur France Inter. Encore une réaction du côté des militants écologistes. Écoutons Anne Lassmann-Trappier, qui est spécialiste transport à France Nature Environnement, sachant que les mesures de ce matin peuvent être lues aussi comme un recul de la politique écolo du gouvernement.
C'est un recul, c'est vraiment une régression grave sur le plan environnemental, sans pour autant être une avancée sociale, parce que le vrai problème de fond, c'est pas la fiscalité, c'est notre addiction au pétrole, et on fait de la fiscalité écologique en particulier un bouc émissaire, alors que c'est le manque de vision et d'action dans le domaine des transports et de la mobilité et de la transition énergétique qui nous ont conduits à ce problème aujourd'hui. Je ne pense pas que ça apporte des réponses vraiment sociales et que ça apporte des réponses de long terme sur la question de l'énergie et de quelle énergie on utilise. Il faut absolument qu'on passe à une fiscalité vraiment plus solidaire, faire payer tous les secteurs, puisqu'aujourd'hui on sait que les plus gros pollueurs sont exemptés de cette fiscalité, le transport routier de marchandises, le transport aérien, le transport maritime, et tout ça nous coûte très cher.
Propos recueillis par Adrien Toffolet. Alors il y a l'aspect politique de cette crise, son aspect écologique et puis l'aspect policier. Les forces de l'ordre débordées samedi à Paris, débordées Place de l'Étoile et en d'autres points de la capitale par la mobilité des casseurs. Le coût des destructions est de 3 à 4 millions d'euros selon la maire de Paris, Anne Hidalgo. Les syndicats de police étaient reçus ce matin par le ministre de l'Intérieur, Place Beauvau. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Spécialiste des questions de police à France Inter. En résumé, à Beauvau, tout le monde a pris acte du fiasco et lancé un changement de méthode s'il devait y avoir d'autres manifestations.
Le message commun était clair, il est hors de question de revivre un nouvel échec, de revoir des policiers et des gendarmes risquer leur vie sans être capables de vraiment réagir à Paris et dans les régions concernées. Christophe Rouget, le secrétaire national adjoint du syndicat d'officiers SCSI.
Nous lui avons dit que nous avons payé cash les problèmes de maintien de l'ordre suite à la baisse des effectifs dans les compagnies de CRS il y a quelques années, des escadrons de gendarmerie. Nous avons payé cash le manque de moyens lourds. Nous avons payé cash le manque de stratégie. Donc aujourd'hui, nous payons tous ces manquements sur l'évolution du maintien de l'ordre.
Et ce matin, Bruno, ce sont apparemment le préfet de police de Paris et son patron de l'ordre public qui en ont pris pour leur grade à tous les niveaux. Le chiffre réel de forces de l'ordre mobile, la coordination, la fan zone qui sera abandonnée. Yves Lefebvre est le secrétaire national du syndicat de gardiens de la paix, SGP Force Ouvrière.
Espérons, à l'heure où on se parle, que la préfecture de police sera placée sur la même ligne conductrice que celle du ministre, à savoir associer tous les opérateurs et notamment les compagnies républicaines de sécurité pour ce qui nous concerne, s'il n'a pas été le cas, notamment pour l'acte 3 samedi dernier.
Et s'il devait y avoir malgré tout un acte 4 ce samedi, les représentants des policiers veulent pouvoir intervenir et interpeller tout de suite, en allant cette fois vraiment au contact, quels que soient les risques, les brigades anticriminalité, leurs équivalents gendarmes et les BRI, les brigades de recherche et d'intervention, seront bien plus massivement utilisées dans ce cas-là.
À la Réunion, il y a eu des affrontements entre jeunes manifestants et policiers qui ont duré jusque tard dans la nuit. L'enjeu est le contrôle de Port Est, qui est l'un des poumons économiques de l'île, bloqué ces deux dernières semaines, désormais débloqué Port Est. En Gironde, 5 hommes d'une vingtaine d'années ont été interpellés après le saccage du péage de Virsac il y a 2 semaines. Et puis pour des raisons de sécurité, le match de football entre le PSG et Montpellier samedi au Parc des Princes est reporté. Les dépôts pétroliers de Brest et Lorient restent paralysés. On verra si ça dure, alors que le gazole non routier, le tarif n'augmentera pas autant qu'il était prévu. La hausse de la fiscalité est gelée. Depuis dimanche soir, il y a des mesures de restriction du carburant dans le Finistère. Voilà pour les stations service. services et dans les lycées, eh bien, le mouvement continue. Il est violent en quelques endroits. Le climat, par exemple, était brûlant ce matin à Marseille, Olivier Martoc.
Autour de la gare Saint-Charles, policiers et lycéens ont joué au chat et à la souris toute la matinée, le plus souvent dans le calme.
On est des lycéens mobilisés. La réforme du bac qui vient détruire le bac qu'on a aujourd'hui et qui n'aura plus forcément la même valeur selon ton lycée d'origine.
Il y a eu quelques moments de tension quand des palettes ont été enflammées dans la rue devant l'entrée du lycée Saint-Charles ou quand des lycéens ont tenté de pénétrer dans l'inspection académique.
Il y a des lycéens, c'est vrai, ils balancent des cailloux, mais les CRS aussi, ils sont protégés, ils ont des boucliers et nous, on n'a rien. On nous balance des bombes lacrymogènes, des grenades explosives et tout. Il y a une violence des deux côtés, mais elle n'est pas du tout proportionnée, voilà.
Et si la situation n'a pas franchement dégénéré, c'est parce que les militants de la CGT, venus de la Bourse du Travail située à 100 mètres, se sont interposés. Maxime Picard, le secrétaire général, était à la tête de ces gilets rouges.
Oui, on s'est mis au milieu face aux forces de l'ordre pour éviter que ça soit une véritable boucherie. Alors que tout se passe à peu près calmement, la police aux ordres matraque, gaz pour anéantir un mouvement complètement légitime des lycéens.
D'autres échauffourées ont été signalées à Marseille, mais la police est essentiellement déployée autour de la gare Saint-Charles, lieu névralgique s'il en est. Gare Saint-Charles, Olivier Martoc, France Inter.
Il y a des manifestations de lycéens dans des dizaines et dizaines d'établissements et souvent un climat tendu, des affrontements avec les forces de l'ordre à Bordeaux, Clermont, Orléans, Toulouse ou en Ile-de-France encore des heures à Aubervilliers. Comme hier soir, France Inter vous propose un téléphone sonne spécial à propos de cette crise des gilets jaunes qui en est donc à son 18e jour, peut-être un tournant. Vous avez la parole comme hier pendant 2 heures. Vous étiez très nombreux au standard hier. Standard qui ouvre des 17h, 01 45 24 7000. Et puis, comme tous les jours, des angles originaux de la rédaction web de France Inter. Par exemple, aujourd'hui, détail avec une chercheuse sur le fonctionnement très concret de ce mouvement des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux. C'est sur franceinter.fr. Une toute dernière information à propos du saccage de l'Arc de Triomphe samedi. Une information judiciaire est ouverte. 12 majeurs et un mineur seront présentés à un juge d'instruction. L'Arc de Triomphe, ce monument, est-ce qu'il représente ? Ce sera la marche de l'histoire de Jean Lebrun, juste après ce journal, à 13h30.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Les autres titres de l'actualité, à peine intronisé, déjà arrêté. Le nouveau boss de la mafia sicilienne est dans les filets de la police. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Correspondante de France Inter à Rome, filet très large de la police. 46 arrestations ce matin, dont le chef.
Oui, le chef, Settimo Mineo, c'est son nom. Il a repris les rênes de la coupole, l'exécutif de Cosa Nostra après la mort, derrière les barreaux de Totorina, c'était il y a un an. Mineo, âgé de 80 ans, officiellement bijoutier, dans les faits, chef d'une des grandes familles de la criminalité organisée palermitaine. Deux de ses frères ont été tués, lui a déjà purgé 2 longues peines de prison par le passé. Il était traqué par l'antimafia depuis des mois. Les enquêteurs ont su qu'il avait été désigné chef des chefs en mai dernier lors du sommet des boss, un sommet qui ne s'était plus tenu depuis 25 ans. Sous les ordres de Mineo, Cosa Nostra voulait revenir, raconte le procureur de Palerme, à une organisation verticale, au vieux principe de commandement, afin de mieux régner sur le trafic de drogue et l'argent des paris en ligne. Le vieux criminel a été arrêté dans son élan, tout comme 45 autres personnes, vous l'avez dit, lui qui pourtant se méfiait de tout. Il n'avait pas de téléphone portable, il circulait toujours à pied, même pour retrouver ses complices, les chefs des autres familles mafieuses. Settimo Mineo devrait finir ses jours en prison, poursuivi pour trafic, incendie, extorsion et violence en tout genre.
Merci Mathilde Imberti en direct de Rome pour France Inter, toujours en Italie. Le gouvernement extrême droite populiste va-t-il accepter les règles européennes ? Ce gouvernement de Rome promet un nouveau budget dans la journée. Il y a débat, vous le savez, sur l'ampleur des déficits. Qui a tué les 2 enfants de Montigny-les-Metz en 1986 ? 32 ans plus tard, toujours pas de réponse judiciaire. Dans cette affaire, le 6e procès d'assises s'est ouvert ce matin. Au fil des années, dans un premier temps, Patrick Dils a d'abord été condamné 15 ans derrière les barreaux avant d'être innocenté. Le principal accusé, c'est désormais Francis Holm, le routard du crime, tueur en série aux 9 autres meurtres. Mais Montigny-les-Metz, il le dit et le répète, c'est pas moi. Cela n'a pas empêché sa condamnation en première instance. Le procès en appel se tient à Versailles. Audience suivie ce matin pour France Inter par Ariane Grissel.
Cheveux blancs clairsemés, Francis Holm fait bien plus que ses 59 ans. Le regard fixe dans le box des accusés, l'écoute
doute, bras croisés, l'intervention de son avocate. Dans sa déclaration liminaire, Liliane Glock dénonce un procès pas équitable depuis le début. Francis Holm est mis en cause par la rumeur publique depuis 20 ans dans cette affaire, dit-elle. Sa première garde à vue remonte à 15 ans. Un procès équitable, c'est un procès qui dure un temps raisonnable. L'avocate rappelle que tous les scellés ont été détruits en 95 et avec eux les éventuelles traces ADN. Le parquet avait le droit de détruire, explique Maître Glock, mais pas l'obligation. Il a fait un choix. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus faire de procès à qui que ce soit. Elle demande l'acquittement immédiat de son client, demande rejetée par la cour. En face de Francis Holm, image marquante, le banc de la partie civile presque vide. Seule Chantal Bénin, la mère de l'un des petits garçons, a fait le déplacement. Les proches de l'autre victime ne croient pas en la piste Holm. Leur avocat a déjà prévenu. Ils n'attendent rien de ce procès.
Ariane Grissel à la cour d'appel de Versailles. Au large de la Bretagne, deux marins pêcheurs portés disparus au large de Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor. Leur bateau, l'Ophélie, a disparu vers 2h du matin la nuit dernière. On a retrouvé le radeau de survie gonflé. Mais vide. Tout autre sujet à présent, comme chaque mardi dans ce journal de 13h, la chronique santé de Daniel Messager. Bonjour Daniel.
Bonjour Bruno.
Vous nous emmenez à Sainte-Anne. Alors Sainte-Anne, tout le monde connaît, c'est passé dans le langage courant, c'est l'hôpital psychiatrique, mais nous n'allons pas parler recherche ou traitement. Mais art.
Eh oui, puisque je vous demande de me suivre à l'exposition de l'art des fous à l'art psychopathologique, des œuvres exposées au musée de Sainte-Anne, qui fait partie des musées de France, réalisées par des personnes hospitalisées. Et c'est à l'hôpital Sainte-Anne, d'ailleurs, que s'était tenu en 1950 le premier congrès international de psychiatrie couplé à une exposition d'art.
Sainte-Anne à Paris, hein. Bien sûr, on parlait alors d'art des fous, puis après on a parlé d'art brut. C'est devenu très à la mode, d'ailleurs.
Et avec des toiles qui se vendaient très cher, parce que la psychiatrie, eh bien, ça intrigue, ça fascine. Est-ce qu'on allait voir sur ces tableaux les tréfonds des âmes tourmentées des malades? Eh bien, ce serait une fausse approche pour Anne-Marie Dubois, qui est responsable scientifique du musée.
Les patients réalisent des choses avec leur partie saine pour se construire un monde idéal et pas forcément pour projeter sur une feuille les affres de leurs angoisses ou de leur déstructuration. C'est au contraire un moyen de se reconstruire au travers d'un objectif artistique.
Est-ce qu'il y a un lien entre ces différentes œuvres? Il y en a qui sont très colorées, il y en a qui sont très sombres.
C'est justement ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont de styles tout à fait différents. Il y a des œuvres qui sont très typiques de 1950, du cubisme. Enfin, on repère des styles inscrits dans leur histoire.
Voilà, c'est typique d'un style artistique. On ne va pas dire celle-ci, c'est typique d'une paranoïa, d'une schizophrénie. On ne va pas dire ça. Ou est-ce que les psychiatres l'ont dit?
Nous, on essaye de faire en sorte que plus personne le dise. Mais les psychiatres des années 50, et sans doute aussi encore maintenant, le disent. D'où ce terme d'art psychopathologique qui était très à la mode pendant les années 50.
Il y a de la hauteur de plafond à Sainte-Anne, on l'entend. 120 œuvres sont exposées, Daniel.
Et Anne-Marie Dubois s'est arrêtée devant celle de Gilbert Le Gub, qui occupe tout un pan de mur. Il a été longtemps hospitalisé, comme c'était le cas il y a une dizaine d'années.
On voit des volcans et des paysages, mais quand on s'approche, on voit des détails tout à fait étonnants. C'est une série qui faisait dire aux psychiatres des années 50 que c'était de l'ordre de la stéréotypie, d'une action répétitive et sans sens. Totalement à l'opposé de ce qu'on voit, c'est-à-dire une recherche dans une série de productions, comme Dali avait fait 46 Ménines et Monet, je ne sais pas combien, de la cathédrale de Rouen. Quand on veut voir quelque chose de pathologique, on le voit. Si on a un regard centré sur le processus de création, on ne voit pas la même chose.
Alors vous l'aurez compris, laissez vos a priori à la porte, on vient voir des œuvres, point. Il se trouve qu'elles ont été réalisées par des personnes qui, un temps, ont souffert de maladies mentales. Et l'exposition dure jusqu'au 22 décembre.
Eh bien, nous irons voir, c'est promis. Merci beaucoup, Daniel Messager. Je vous rappelle la principale information de ce journal. Les annonces et les reculs du gouvernement au 18e jour de contestation des Gilets jaunes. Les annonces, un moratoire, une pause sur la hausse de la taxe carburant. Le nouveau contrôle technique automobile qui est mis de côté pose sur la convergence diesel-essence. Et puis, pas de hausse des prix de l'électricité et du gaz cet hiver.
La météo avec les œufs fermiers de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Jean-Pierre Hameau, Météo France.
Beaucoup moins de pluie au programme de votre journée. En revanche, le ciel restera bien nuageux dans de nombreuses régions. Seuls le nord et le sud seront épargnés, avec dans le détail de belles éclaircies de la Haute-Normandie au Nord-Pas-de-Calais et de l'Île-de-France à la région Champagne-Ardenne. Prévoyez un très bon ensoleillement du Piémont pyrénéen au Languedoc-Roussillon et de la basse vallée du Rhône à la région PACA, sans oublier la Corse. À noter l'arrivée d'une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse du côté de la pointe bretonne. Côté température, les maximales seront en sensible baisse dans la moitié nord du pays. Comptez 9 degrés à Lille, 10 à Metz, 12 à Paris, Dijon et Grenoble, 13 à Rennes, Ambérieu et Limoges, 14 à Lyon. Elles seront quasi printanières dans le sud et le sud-ouest. On attend 16 degrés à Toulouse, 18 à Biarritz, 19 à Toulon et 20 du côté d'Ajaccio.